12h31 sur France Culture. Tout de suite le journal Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Le dernier faux départ de Bouteflika, voilà l'un des nombreux titres de la presse algérienne ce matin pour commenter l'annonce hier de la démission à venir d'Abdelaziz Bouteflika avant l'expiration de son mandat le 28 avril prochain.
C'est ce soir que l'on connaîtra le nom du prochain maire de Chicago.
Et d'ores et déjà, c'est une certitude, l'une des deux candidates encore en lice deviendra donc la première femme afro-américaine à diriger la troisième ville des États-Unis. L'information est sourcée du Washington Post. Les enfants du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, assassiné à Istanbul le 2 octobre dernier, auraient chacun reçu en compensation des millions de dollars des autorités saoudiennes.
La catastrophe ferroviaire de Brétigny, qui avait coûté la vie à 7 personnes, c'était le 12 juillet 2013, était-elle prévisible?
Oui, ou dit autrement, aurait-elle pu être évitée selon plusieurs documents internes de la SNCF? Il semble que des alertes avaient été lancées sur le manque d'agents de maintenance. Enfin, Benoît Hamon, François Asselineau et Florian Philippot, tous trois candidats pour les élections européennes, participeront bien au débat télévisé organisé par France Télé entre les différentes têtes de liste. Ainsi on a décidé hier le tribunal administratif de Paris. Puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Comment les arbres font les nuages et aident les sangliers? Comment la présence des loups peut influencer le cours des rivières? Comment les saumons remontant les cours d'eau boostent la croissance des arbres sur le bord des fleuves? Et bien, c'est toutes ces questions qu'il pose dans son nouveau tome, le troisième de sa trilogie. Avec nous, le garde forestier allemand Peter Wohlleben. C'est lui l'auteur du best-seller La vie secrète des arbres. Il va parler aujourd'hui de ces phénomènes d'interdépendance qui se jouent en milieu naturel.
Merci et à tout à l'heure. En Algérie, les mauvaises langues diront sans doute que le pouvoir était déjà plié en deux. Reste à savoir si l'annonce hier que le président Bouteflika, affaibli physiquement, démissionnera avant la fin de son mandat prévu le 28 avril, permettra cette fois-ci de tordre définitivement le système. D'autant que d'ici là, il y a fort à parier qu'Abdelaziz Bouteflika et ses proches feront tout pour tenter de gérer la transition politique, comme le précise d'ailleurs noir sur blanc le communiqué publié hier. Avant sa démission, le chef de l'État prendra des mesures pour assurer la continuité du fonctionnement des institutions. En fin de compte, si en acceptant de démissionner, Bouteflika s'évite à coup sûr une humiliante décision du Conseil constitutionnel que les faits auraient obligé à le déclarer inapte à conserver le pouvoir. Pour le reste, eh bien, les événements ont beau s'accélérer chaque jour un peu plus, tout porte à croire que la crise est encore loin de connaître son épilogue. Pour preuve, dès ce matin, étudiants et universitaires ont à nouveau appelé à manifester, signe que l'annonce de la démission prochaine de Bouteflika est d'ores et déjà jugée insuffisante par les protestataires qui réclament, eux, le départ du système. Un système, Leïla Berhatou, qui semble d'ailleurs lui aussi très divisé.
C'est un combat par presse interposée qui se déroule depuis plusieurs jours. Des médias privés bruissent de rumeurs, des rumeurs qui ont poussé l'ancien très puissant chef des renseignements, Mohamed Medyane, appelé Toufiq, à sortir de sa discrétion et à se fendre d'un communiqué pour dénoncer des manipulations médiatiques. L'annonce de la démission d'Abdelaziz Bouteflika n'a pas calmé les choses. Hier, dans la soirée, des chaînes de télévision privées ont diffusé des informations censées faire comprendre aux téléspectateurs que la lettre de démission du président était un faux. Le ministère de la Défense a alors publié un communiqué pour démentir d'autres informations diffusées qui annonçaient qu'il était limogé. Parallèlement, le parquet d'Alger a annoncé ouvrir des enquêtes préliminaires pour corruption et transfert illicite de capitaux vers l'étranger, confirmant une interdiction de sortie du territoire pour certaines personnes dont l'homme d'affaires Ali Haddad et son bras droit à la tête du patronat Mohamed Bayri. Pourtant, les deux hommes sont très proches du cercle présidentiel. Tout cela suscite de l'inquiétude dans les rues d'Alger et c'est aussi le signe que la démission du président n'est peut-être que le premier acte d'une bataille entre cercles pour garder la main sur la suite.
Et pour continuer d'évoquer l'annonce prochaine donc de la démission de celui qui, 20 années durant, aura incarné physiquement l'Algérie jusqu'à représenter dans sa chair la dégradation d'un État aujourd'hui atteint de paralysie. Invité de la rédaction, Akram Belkaïd, journaliste au Monde Diplomatique. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et à mes côtés pour vous interroger, Nabila Hamel. Bonjour Nabila.
Bonjour.
Pour commencer, monsieur Belkaïd, peut-être pouvez-vous commencer par nous dire comment vous avez reçu hier l'annonce de la démission à venir d'Abdelaziz Bouteflika, même si ça n'est pas véritablement une surprise, même si certains feront remarquer qu'il n'avait de toute façon pas le choix constitutionnellement, ça reste malgré tout un moment historique.
Ça reste effectivement un moment historique, c'est une victoire pour la population qui s'est mobilisée, mais en même temps, effectivement, faut être prudent parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Pourquoi démissionne-t-il? Pourquoi n'attend-il pas simplement le 28 avril pour s'en aller? Et surtout, quelles sont ses dispositions qu'il a annoncées, ses mesures dont il a parlé pour accompagner la transition? Donc là, on est encore un peu méfiant tout de même.
Une question de Nabila Hamel.
Est-ce qu'il y a une cohérence dans ce qui a été décidé jusque-là par le pouvoir? Puisque on voit que, par exemple, l'homme qui demandait à ce que l'on déclare inapte le président de la République est celui qui a été nommé dans un gouvernement, qui a été conforté dans son portefeuille de vice-ministre de la Défense. Donc, est-ce qu'il y a une cohérence dans tout ce qui est annoncé depuis les mobilisations populaires en Algérie?
Absolument pas. L'une des caractéristiques du régime algérien, ça a été toujours de gagner du temps lorsqu'il est confronté à de la contestation, et c'est ce qu'il a fait depuis le mois de février dernier. On voit bien la séquence, c'est-à-dire que dans un premier temps, il a été question d'essayer de ne pas tenir compte de la revendication d'un refus du cinquième mandat. Ensuite, on a proposé un prolongement du quatrième mandat. Enfin, à chaque fois, les concessions se sont accompagnées de manœuvres dilatoires pour faire justement perdurer le régime. Donc il n'y a pas de cohérence, il y a une adaptation au fur et à mesure à la situation, avec comme point de départ le fait que le pouvoir a sous-estimé la capacité de mobilisation des Algériens. Et donc ça donne une impression d'improvisation, une espèce d'imbroglio constitutionnel, de dispute entre les différents clans. Tout cela est finalement une des marques de fabrique du régime algérien, qui a toujours réagi aux événements et qui s'enfonce encore un peu plus, parce qu'à chaque concession qu'il fait, on voit bien que de l'autre côté, la rue ne faiblit pas et continue à réclamer finalement le départ du régime. Il ne se contente pas simplement de ce qu'on lui octroie difficilement.
Un ancien Premier ministre, Ahmed Ben Bitour, disait « Il faut que la rue définisse un objectif et choisisse ses représentants. Est-ce qu'elle peut encore être en mesure de le faire ?»
C'est aller plus vite que la musique, parce que une phase de transition, quand elle commence, elle n'est jamais simple à définir. Les revendications fusent de partout. Ahmed Ben Bitour a été premier ministre de ce régime, il a servi ce régime, donc aujourd'hui c'est une offre de service plus ou moins implicite qu'il fait, de manière à dire, bon bah, si vous cherchez des gens qui pourront vous représenter, j'en fais partie. Ils sont plusieurs dans cette situation, et malheureusement pour eux, la rue n'en veut pas beaucoup, n'en veut pas du tout même. Donc je pense que le vrai problème, ça va être de donner du temps à cette transition si elle s'enclenche de manière pacifique, parce que, encore une fois, rien n'est encore joué. Le président dit qu'il démissionne, mais on ne sait pas très bien ce qu'il va faire après. On ne sait pas très bien quelles sont les institutions et les instances qu'il va mettre en place. Donc là aussi, on est encore dans une situation de conditionnalité. Il faut attendre.
J'allais justement vous dire quelles sont les mesures importantes qu'il peut décider avant de partir, puisque c'est ce qui était annoncé hier.
Alors là, on se perd en conjectures et en hypothèses. Beaucoup de gens affirment que, vengeance présidentielle, il va décider de mettre à la retraite le général de corps d'armée Ahmed Gaït Salah, de manière à le punir d'avoir lâché. D'autres affirment que on va peut-être avoir un conseil de transition qui va être nommé, qui donc, d'une certaine manière, va confisquer la transition en cours. On n'en sait pas plus. C'est pour ça que beaucoup de gens se méfient. Beaucoup de gens, d'ailleurs, disent que l'un des arguments de l'armée va être à ce moment-là de remettre en cause toute décision qui viendrait de la présidence, en affirmant qu'elle n'est pas le fait du président mais de son entourage. On voit une presse plutôt proche de l'armée qui reprend ces accusations en disant le cachet présidentiel ne vaut plus rien parce que ce n'est pas le président qui signe. Tout est possible. Il est certain que dans une situation de grande difficulté, le clan présidentiel ne va pas se laisser faire. Il va tenter, vaille que vaille, de trouver une solution qui lui permettra de sortir sans trop de dommages et sans trop avoir de compte à rendre.
Alors, il y a quelques signes qui sont constatés sur le terrain, comme par exemple où l'ancien patron des patrons, puisqu'il a récemment démissionné, qui a été arrêté à la frontière algérienne alors qu'il essayait de se rendre en Tunisie. D'autres personnes seraient interdites de sortie du territoire. Est-ce que ce sont des signes que l'on donne comme ça aux Algériens qui sont mobilisés tous les vendredis? Et cette mobilisation, est-ce qu'elle se poursuivra vendredi prochain? Est-ce qu'elle sera aussi importante que les vendredis précédents?
Alors, pour répondre à la dernière partie de votre question, quoi que fasse le régime, je pense que nous allons avoir droit à une grande mobilisation ce vendredi, sauf circonstances exceptionnelles. Mais en tout cas, les gens sont déterminés à continuer à sortir dans la rue pour dire « on ne veut plus de ce régime, quoi que vous nous proposiez, quoi que vous fassiez ». pour la première partie de la question sur ce qu'on appelle un peu trop vite les oligarques, en tout cas ces millionnaires ou milliardaires qui ont fait fortune grâce à leur proximité avec le clan présidentiel, on ne sait pas très bien si c'est le début d'une opération main propre destinée à contenter la rue ou si c'est un levier que le clan militaire utilise pour amener le clan présidentiel à la raison. Ces arrestations, ces interdictions de territoire étaient réclamées par une partie de la rue et des médias, mais en même temps, ça ressemble beaucoup à un énième épisode dans le bras de fer qui oppose le clan présidentiel à l'état-major. Donc, on relèvera néanmoins que c'est une espèce de débandade, notamment l'ex-patron des patrons dont vous parlez, Ali Haddad, qui essaye de franchir la frontière à 3h du matin, la frontière terrestre entre l'Algérie et la Tunisie. Je pense que s'il voulait le faire ainsi, c'est qu'il a dû sentir ou il sent que la situation se dégrade énormément pour lui et pour ses pairs.
Bien, merci Akram Belkaïd, journaliste, je le rappelle, au Monde diplomatique, d'avoir répondu à notre invitation. Et merci également à Nabila Hamel. Jusqu'où ira le sordide dans l'affaire de l'assassinat de l'intellectuel saoudien Jamal Khashoggi, tué et démembré le 2 octobre dernier par un commando de 15 agents saoudiens venus de Riyad dans le consulat de son pays à Istanbul. Selon le très sérieux Washington Post, dans le cadre de négociations pour le prix du sang, les enfants du journaliste auraient reçu de confortables compensations financières de la part de Riyad. Les précisions de Valérie Crova.
Des maisons de plusieurs millions de dollars situées à Jeddah et des versements mensuels supérieurs à 10 000 dollars. Telles sont les compensations accordées aux quatre enfants de Jamal Khashoggi. Des compensations qui auraient été négociées par l'un des frères du prince héritier Mohamed Ben Salman, ambassadeur aux États-Unis, croit savoir le Washington Post. Sur les quatre enfants du journaliste assassiné, un seul, Salah, banquier de profession, vit encore dans le royaume. Les autres, qui habitent aux USA, devraient vendre leur nouvelle propriété. Toujours selon le Washington Post, pour lequel travaillait Khashoggi, ses enfants devraient également toucher des sommes considérables à l'issue des procès des 11 suspects qui ont été arrêtés. Selon un responsable saoudien, ces indemnisations correspondent à une pratique répandue en Arabie Saoudite qui consiste à fournir une aide financière aux victimes de crimes violents pour réparer un tort. Mais pour d'autres, elles ressemblent davantage à une incitation à garder le silence dans une affaire qui s'est transformée en un scandale international. Les organisations de défense des droits de l'homme continuent de demander aux autorités saoudiennes de reconnaître leur responsabilité dans la mort du journaliste dont le corps n'a toujours pas été retrouvé.
Même si elle est issue du jeu démocratique, la défaite inédite en 16 années de pouvoir enregistré en Turquie par Recep Tayyip Erdogan ressemble à s'y méprendre à une mini-révolution en ravissant les principales grandes villes du pays, de la capitale Ankara à l'ancienne capitale des sultans Istanbul. L'opposition a infligé un sérieux camouflet au chef de l'État, d'autant plus que son parti, l'AKP, avait fait de sa victoire municipale rien de moins qu'une question de survie pour le pays prétendument assiégé par ses ennemis de l'intérieur comme de l'extérieur. À présent, toute la question est de savoir si cette déroute électorale poussera le chef de l'État à se montrer plus conciliant envers l'opposition et ses électeurs. Ce matin déjà, le quotidien Hurriyet rapportait que l'AKP, le parti du président, allait contester les résultats des élections municipales dans chacun des 39 quartiers d'Istanbul. Première mesure de rétorsion depuis qu'Ankara a décidé de s'équiper d'un système de défense antimissile russe. Le département américain de la défense a annoncé hier la suspension des livraisons à la Turquie de matériel lié à l'avion de combat furtif F-35. Sauf qu'Ankara a investi près $1 milliard dans ce programme et toute décision américaine empêchant l'arrivée des avions de chasse pourrait être considérée comme une violation de contrat. Quoi qu'il en soit, cette dispute entre la Turquie d'un côté et les États-Unis de l'autre, tous deux membres de l'OTAN, pourrait bien s'inviter à la réunion ministérielle prévue demain à Washington pour célébrer les 70 ans de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Et puis, dès aujourd'hui, ironie du sort, c'est donc Donald Trump en personne, comprenez, le principal détracteur de l'alliance au sein même de l'OTAN, qui lancera les festivités en recevant le secrétaire général de l'organisation. On reste aux États-Unis où, pour la première fois dans l'histoire de Chicago, une femme afro-américaine deviendra ce soir maire de la troisième ville du pays. Le second tour de l'élection municipale oppose en effet deux démocrates, la quinquagénaire Lori Lightfoot à la septuagénaire Toni Preckwinkle, c'est donc l'une de ces deux femmes qui succédera à l'ancienne édile. Une première donc, je le disais, dans cette ville, marquée notamment par les violences, mais aussi un exode des populations noires les plus pauvres. C'est une correspondance signée Gregory Phillips.
Welcome to the Morning Star Auditorium. Le dernier débat télévisé la semaine passée entre Lori Lightfoot et Tony Preckwinkle a été particulièrement tendu.
There she goes again.
D'un côté, la quinquagénaire Lightfoot, ex-procureur, ancienne avocate qui longtemps a dénoncé le racisme systémique des policiers de Chicago et qui est aussi la première personnalité ouvertement homosexuelle à briguer le poste. De l'autre,
Tony Preckwinkle, is tough.
Preckwinkle, 72 ans, qui préside le comté de Cook. Elle est notamment soutenue par les puissants syndicats de la ville. Mais quelle que soit l'issue du scrutin, cette élection entre deux démocrates marquera l'histoire. Pour l'instant, une seule femme blanche et deux Afro-Américains ont occupé les fonctions de maire de Chicago. Celle qui sera élue ce soir devra en tout cas administrer une ville compliquée parmi les plus dangereuses du pays, avec plus de 500 meurtres comptabilisés l'an passé, et aussi une ville qui se vide d'une partie de ses habitants. Les Noirs des quartiers sud et ouest s'en vont et fuient la violence et la pauvreté. Redonner vie et des emplois à ces quartiers Afro-Américains sera l'un des défis de la nouvelle maire.
Au Venezuela, alors que des coupures massives et incessantes paralysent le pays depuis bientôt un mois, le président élu, Nicolas Maduro, a décidé hier de remplacer son ministre de l'énergie électrique. La veille déjà, il avait annoncé des mesures draconiennes visant à rationner l'électricité pour les 30 prochains jours. Et puis, dans ce pays, toujours plongé dans le chaos, voilà qu'un nouveau rebondissement aux conséquences imprévisibles est intervenu hier. La Cour suprême, contrôlée par le régime du président Chavez, a demandé la levée de l'immunité parlementaire du chef de file de l'opposition. La plus haute juridiction vénézuélienne reproche à Juan Guaido, reconnu président par intérim par une cinquantaine de pays, de ne pas avoir respecté une interdiction de sortie du territoire. En planifiant de longue date déjà leur sortie de l'UE le 29 mars, peut-être, les Britanniques auraient-ils dû se méfier d'un calendrier qui de facto faisait du 1er avril le premier jour ouvrable complet en Grande-Bretagne après le Brexit. Quoi qu'il en soit, et bien davantage qu'à un simple poisson d'avril, la journée d'hier aura surtout ressemblé à une plaisanterie au triste front. Hier soir, le Parlement a une nouvelle fois échoué à dégager une majorité claire pour une alternative à l'accord de Brexit négocié avec Bruxelles. Aucun des quatre scénarios proposés censé permettre de sortir de l'impasse n'a recueilli de suffrages suffisants. Qu'il s'agisse de la mise en place d'une union douanière avec l'UE, de l'organisation d'un référendum sur tout accord de divorce conclu avec Bruxelles, d'un maintien du Royaume-Uni au sein du marché unique, ou bien de la dernière option visant à arrêter le processus de Brexit en cas d'absence d'accord. En d'autres termes, et à 11 jours maintenant de la nouvelle sortie programmée de l'Union européenne, le vote d'hier soir laisse le pays sans solution, ou presque, puisque pour éviter une sortie sans accord, Theresa May devra désormais formuler un nouveau plan d'ici au 10 avril. Antoine Gignot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Londres. Alors ce matin, un conseil des ministres exceptionnellement long a été convoqué pour discuter justement de la voie à suivre. La Première ministre n'exclut pas d'ailleurs de soumettre au vote son plan pour la quatrième fois. Malgré tout, et même si le gouvernement tentera probablement jusqu'au dernier moment de résoudre cet inextricable casse-tête, il semble quand même que le Royaume-Uni et les 27 s'acheminent plutôt vers un Brexit non négocié, c'est-à-dire le scénario tant redouté. Mais pour quelle raison, Antoine? Que va-t-il se passer concrètement pour les Britanniques en cas de no deal?
Alors clairement, le plus grand problème, c'est la logistique. Un Brexit sans accord, c'est d'abord un retour aux règles de l'OMC, et un retour donc des contrôles. Il y a près de 10 000 camions qui traversent la Manche et qui passent par Douvres chaque jour. Chaque minute de retard va générer, explique la Fédération des transporteurs routiers, 1,40€ de coûts supplémentaires. Les grandes usines automobiles ont déjà suspendu en partie leur production pour se préparer au pire. Les routes du Kent pourraient être bloquées en moins de 2 jours. Il y a aussi le problème des compagnies aériennes et ferroviaires qui seraient obligés de signer des accords en urgence avec des permis temporaires pour continuer à assurer les allers-retours. Et puis l'impact sur l'économie de ces droits de douane, plus 13% sur l'agriculture, 40% sur les produits laitiers. Tout l'argent enfin qu'il va falloir dépenser dans des procédures de certification. Au total, le ralentissement de la croissance pourrait représenter une baisse de 2300€ par an pour les familles britanniques. Et puis, évidemment, difficile d'oublier la finance. La City qui a dépensé des fortunes pour se préparer à toutes les éventualités. 400 millions de dollars pour Bank of America pour être prêt à opérer depuis Dublin et depuis le Luxembourg. Plusieurs centaines de millions d'euros pour HSBC. Morgan Stanley aussi qui a transféré son hub européen à Francfort. Pour l'instant, 1500 emplois seulement ont été relocalisés, mais tout est prêt pour accueillir d'autres équipes sur le continent.
Merci Antoine Gignot en direct de Londres. C'était le 12 juillet 2013, le déraillement d'un train à Brétigny coûtait la vie à 7 personnes et en blessait grièvement une trentaine. Après 5 ans d'enquête, l'affaire avait connu un rebondissement inattendu. C'était en janvier dernier avec la mise en examen d'une première personne physique, un cadre de la SNCF, pour homicide et blessure involontaire. Or ce matin, nouveau rebondissement selon nos confrères du journal Le Parisien. Des documents de la SNCF semblent démontrer qu'il ne s'agirait pas, loin de là, d'une erreur individuelle. Catherine Pétillon, bonjour.
Bonjour.
Des alertes avaient en effet été lancées s'agissant de lacunes en matière d'entretien des voies, des lacunes qui auraient contribué donc à précipiter le drame.
Oui, le quotidien affirme avoir consulté des écrits internes à la SNCF, en l'occurrence des emails. Ils témoigneraient d'une défaillance générale en matière d'entretien des voies. En tout cas, le journal cite des échanges entre directeurs, s'inquiétant du manque d'agents. Il cite le chiffre de 2000 agents manquants sur l'ensemble du territoire et évoque des alertes régulières dès 2012 sur la difficulté à trouver des formateurs à la maintenance. Rappelant que la réduction des effectifs à ces postes est dénoncée depuis des années par les syndicats, à cette heure, ni les syndicats ni la SNCF n'ont souhaité réagir à cette publication. Il faut dire que l'instruction est en cours et qu'on est là au cœur de la question posée par la procédure judiciaire. Brétigny est-il un cas particulier, une négligence ou la conséquence d'un défaut structurel de maintenance dans l'ensemble du réseau? Autrement dit, la SNCF est-elle responsable? Pour l'entreprise, l'assemblage en cause a cédé d'un coup. L'accident était donc imprévisible. Les expertises ordonnées par la justice ont, elles, conclu que le déraillement de l'intercité était dû à un morceau de voie détérioré, faute d'entretien. C'est donc dans ce contexte que sont publiées ces informations, quelques semaines après la mise en examen personnelle du cadre à la tête de l'équipe chargée de l'inspection des voies. La fin des investigations en janvier a ouvert une période durant laquelle les parties peuvent faire des observations, demander des actes d'enquête avant les réquisitions du parquet.
Merci Catherine Pétillon. Le grand débat arrive aujourd'hui à l'Assemblée. Pendant 2 jours, les députés vont discuter des 4 thèmes définis par le chef de l'État. Quand la majorité juge ce débat parlementaire indispensable, l'opposition y voit une simple opération de communication de la Macronie. Benoît Hamon, chef de file du mouvement Génération, François Asselineau, fondateur de l'UPR, et Florian Philippot, chef du mouvement Les Patriotes, tous 3 candidats pour les élections européennes, participeront bel et bien au débat télévisé organisé jeudi prochain par France Télévisions entre les différentes têtes de liste. Ainsi en a décidé hier le tribunal administratif, car à la différence d'autres candidats, en particulier Yann Brossat, tête de liste pour le Parti communiste, qui avait lui fini par être invité après s'être plaint de son exclusion des plateaux télé de France Télévisions. S'agissant de ces 3 candidats, Stéphane Robert, ils n'auront eu d'autre choix que d'en passer par la case justice.
Oui, les choix de France 2 pour ce débat du 4 avril avaient déjà été contestés il y a une quinzaine de jours par le Parti communiste et par les centristes de l'UDI. À l'époque, la justice n'avait pas été saisie. Le Parti communiste s'était contenté d'exercer une forte pression médiatique, ce qui avait payé puisque France 2 avait finalement consenti à convier à ce débat la tête de liste du PCF Yann Brossat et le président de l'UDI Jean-Christophe Lagarde. En revanche, Benoît Hamon continuait à être considéré comme un pestiféré. Trop de candidats tuent le débat, semblait dire jusqu'ici la chaîne de service public. Mais la justice n'est pas de cet avis et oblige France Télé à inviter Benoît Hamon, qui estime du coup que les choses sont rentrées dans l'ordre.
Ce qui m'attriste, c'est qu'il faille aujourd'hui faire un référé liberté devant le tribunal administratif de Paris pour que le service public mette en œuvre l'égalité de traitement. Et ce qui m'a surpris, c'est le caractère un peu irrationnel des réponses qui m'avaient été faites jusque-là. Mais voilà, donc bon, écoutez, moi je préfère passer à autre chose. Maintenant, il me reste plus que 48 heures pour préparer un débat important sur l'Europe, puisque d'après mes informations, France Télévisions va évidemment exécuter la décision du tribunal administratif.
Les règles en matière d'accès aux médias du service public de l'audiovisuel ont été fixées par une loi votée en mai 2018. Cette loi prend en compte 2 critères importants. D'abord, le fait d'avoir des représentants au Parlement européen, ce qui est le cas notamment du mouvement Génération présidée par Benoît Hamon. Et puis il y a aussi les intentions de vote dans les enquêtes d'opinion, ce qui conduit la justice à enjoindre France 2 à inviter 2 autres candidats qu'il n'était pas jusque-là, l'ex-frontiste Florian Philippot et le candidat de l'UPR, François Asselineau, qui avait recueilli 0,9% des voix au premier tour de la présidentielle en 2017.
Quoi de mieux qu'un parachute doré quand il s'agit de sauter de l'avion? Le président exécutif d'Airbus, Tom Enders, devrait toucher une enveloppe globale pouvant atteindre 36,8 millions d'euros à compter de son départ à la retraite de l'avionneur européen le 10 avril, soit une rente annuelle de 1,31 million d'euros. On termine avec un mot du temps perturbé cet après-midi avec un ciel chargé de nuages, mais aussi d'averses parfois orageuses. Les températures, elles varieront entre 9 et 21 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François-Charles Domergue. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.